franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le drapeau français.
L'étude des drapeaux, c'est le parterre de fleurs de l'histoire. Et puis, ça peut permettre de détendre, d'être coloré et de mettre de la joie, de la couleur, du mouvement dans la vie de l'humanité.
En tout cas, les drapeaux tricolores ont créé un peu de mouvement, en effet, dans la campagne présidentielle. Innombrables dans tous les rassemblements en plein air, ils ont fourni aux télévisions de bien belles images. D'habitude, quand ils apparaissent immobiles, un peu figés devant les caméras du studio de l'Élysée, ils ont été accommodés. Le blanc a été rétréci pour qu'aucune des trois couleurs ne l'emporte. Mais là, l'élection donnait matière à jouer. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, veillait à mettre le rouge bien avant le blanc. François Hollande, à Bercy, tenait d'une main le drapeau tricolore et de l'autre le drapeau bleu européen. Et au Trocadéro, Nicolas Sarkozy recommandait poser le drapeau rouge qui a été l'étendard de tant de tyrannie dans le monde. On aura compris que le drapeau n'adoucit pas nécessairement la confrontation, mais il présente, entre autres avantages, celui de lui fournir des termes rituels. Mais au fait, quel a été le parcours de ce drapeau tricolore qui figure dans la Constitution dès l'article 2, qui est l'emblème par excellence d'un pays qui n'a pas d'armoirie? Comment a-t-il fini par être arrimé de si près au quai de la République? Pour tenter de répondre à ces questions, Bernard Richard, bonjour.
Bonjour.
Auteur chez CNRS Éditions des emblèmes de la République. Alors vous êtes un historien, disciple du grand Maurice Agulon, vous avez passé d'ailleurs une grande partie de votre carrière à l'étranger dans des alliances françaises ou des instituts culturels à la façade desquels flottait l'étendard tricolore.
Voilà, et c'était largement en Amérique latine, dont les emblèmes sont souvent inspirés des emblèmes français. C'est à ce moment-là que je suis rentré en contact avec Maurice Agulon. Il avait sa Marianne en France et moi j'avais ma Libertad à Buenos Aires.
Alors,
qui est la petite sœur.
Vous êtes devenu un spécialiste ainsi de l'emblématique, et dans l'emblématique, il y a la vexillologie. Vexillologie.
Ah, ne vexons pas le public. Chacun sait ce qu'est la vexillologie. Ça vient de vexillum, le drapeau, la bannière en latin. Mais les vexillologues sont seuls à savoir s'auto-désigner, je pense. Hein, le drapeau, d'ailleurs, le drapeau. On parle du drapeau, on parle de l'étendard, on parle du pavois, on parle de la bannière, on parle du pavillon, on parle des couleurs. Mais de vexillum, aucun terme français n'est en dehors de vexillologie.
En voici un de vexillologue qui est aussi docteur en médecine. Il est interrogé par un autre original, Jean Kergrist d'Armor TV, afin qu'il n'ait pas d'ennui avec son ordre. L'ordre des médecins, je ne vais pas donner son nom. Dire seulement que son cabinet à Rostrenin, en centre-Bretagne, vous trouverez, si vous allez par là-bas et que vous quittez votre yonne très cher où vous habitez, se signale à l'attention par les mâts qui sont plantés devant et où flottent des pavois, des oriflammes, je ne sais.
Qu'il a créé lui-même.
Je vous prescris le drapeau de la guérison, qui est un drapeau amérindien, qui a été conçu par mon épouse. À l'origine, le drapeau d'un centre de post-cure de jeunes amérindiens de l'État du Washington. Une espèce de drapeau intertribal des amérindiens des États-Unis. Un drapeau, ce n'est pas forcément un emblème d'une nation, d'une nationalité, d'un État. Ça peut être aussi l'emblème d'une idée. Celui que vous voyez là, c'est l'amitié anglo-bretonne. Puisqu'en Bretagne, on avait des immigrés qui étaient anglais. Ben, j'ai inventé ce drapeau-là qui écartèle la croix noire de la Bretagne avec la croix rouge de l'Angleterre, des hermines pour la Bretagne, des roses pour les Anglais, un cœur au milieu pour dire voilà, aimons-nous les uns les autres, bienvenue au pays, etc.
Vous avez également en projet la fabrication de drapeaux représentant chaque organe humain.
Je travaille en ce moment un drapeau pour mon estomac, un drapeau pour mon côlon, que j'aime beaucoup.
Vous serez comment, par exemple, le côlon ?
Je vois un drapeau blanc avec mon drapeau en canton et puis donc une figure, si vous voulez, de mon colon se terminant, ce qui me concerne, par un clairon, puisque j'ai toujours considéré mon colon comme un instrument avant.
Oui, parce que l'héraldique crée des armes parlantes et la vexillologie crée des emblèmes tonitruants.
Hein. Oui, si on veut. Enfin, le texte est original.
Hein.
Le texte
voyez,
est original. C'est bien fait par un original, ça ne peut être que... Quand vous disiez docteur, je me suis dit, s'il est docteur en histoire...
Non, non, il est docteur en médecine.
C'est docteur en médecine, oui.
Oui, oui, oui.
Il vole dans un autre ciel que le nôtre.
C'est bien la vexillologie, surtout quand c'est humaniste et internationaliste, mais en fait, dans notre histoire du drapeau tricolore que nous allons tenter maintenant, on va voir que les emblèmes, ils sont issus du désordre, ils sont issus de l'effervescence et d'abord d'une grande période de fabrique emblématique, c'est-à-dire la Révolution française, où avant le drapeau tricolore est apparu la cocarde tricolore.
La cocarde, oui. Et le terme de cocarde vient de coq, d'ailleurs, parce que ce sont la crête du coq ou les plumes de la queue du coq qui ont donné cocarde. Alors, c'est quelque chose qui doit être chamarré, fait de plusieurs couleurs, plutôt, encore qu'il y a des cocardes monocolores. Alors, si nous partons de la cocarde française, bon, on l'apprend à l'école primaire, on le mémorise, c'est 17 juillet 89.
Et mémorisation avec le film de Robert Enrico, La Révolution française, nous sommes à la date que vous venez de dire, juste après la prise de la Bastille. Louis XVI vient rendre visite à Paris, le chef de la garde nationale, Lafayette, est là avec lui à l'hôtel de ville.
Si tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie.
Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée.
Si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets.
Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même.
Bon, alors le rôle de Lafayette, peut-être a-t-il été exagéré, c'était un brillant manipulateur de symboles, Lafayette.
C'est-à-dire que la création de cette cocarde tricolore, qu'on appellera peu après la cocarde nationale, elle est attribuée à Lafayette, par Lafayette dans ses mémoires. Elle est attribuée à Bailly par ce qu'a écrit Bailly, le maire de Paris, qui recevait également le Louis XIV. Et d'autres témoins oculaires l'attribuent à Louis XVI.
Lui-même.
Lui-même, à Louis XVI lui-même. Alors là, dans cet extrait de film là, que nous avons vu, bon, visiblement, les caméras étaient là sur place et ont tout enregistré. Oui. Mais y compris la voix un peu chevrotante de Louis XVI. Mais enfin, cette cocarde, elle est... ce qui compte, c'est la légende. Hein, la légende d'un Lafayette, noble libéral, d'un Bailly, savant libéral, et d'un Louis XVI, père de la patrie à l'époque.
Jean-François Balmer interprète ici le père de la patrie. Alors quand il va être renversé, la cocarde tricolore deviendra obligatoire. Il faudra la porter au tricorne ou au bonnet à chaque instant. Mais on n'en est pas encore là. Vous parliez de juillet 89. Voici une énigme de 1790. On aime bien proposer à nos auditeurs des énigmes, surtout quand l'invité peut apporter une première interprétation, ce que vous n'allez pas manquer de faire. Nous sommes ici dans le Jura. C'est une histoire qui a fait les délices du trésor de Jean-Pierre Pernaud. Il s'agit de la résurrection d'un drapeau rouge d'un côté et blanc de l'autre de, je répète, 1790.
Il était là-haut dans le grenier depuis plus de 200 ans, mais qui s'en souvenait ?
Le drapeau a été trouvé par terre, là, dans cette soupente.
Le premier magistrat en parle autour de lui. Cette bannière l'étonne.
On aurait pu le jeter à l'occasion des travaux pour faire de la place lors d'un nettoyage, sans savoir la valeur qu'il avait.
C'est alors qu'intervient un professionnel de l'art qui confirme la découverte.
Il n'y a pas de doute, la forme des lettres néoclassiques, ça correspond à la période révolutionnaire.
Cette relique aurait été confectionnée en 1790 par les habitants de Quintigny pour célébrer la prise de la Bastille. Ce bout de tissu rouge et blanc serait le plus vieux drapeau de la Révolution française. On peut aussi le voir comme le premier drapeau de la démocratie.
Carrément, les fabricants en 90 fabriquent une relique. Alors, il est question de lettres. C'est qu'il y a une inscription sur la face rouge, valeur et bonne foi, et une inscription sur la face blanche, Dieu et patrie. Votre interprétation, docteur, je peux vous traiter de docteur en vexillologie.
Oui, non, je ne suis que désagrégé d'histoire. Alors, le blanc avec Dieu et patrie, bon, ça a l'air très royaliste. On le retrouve, Dieu et patrie, sur certains monuments morts du 19e siècle. C'est une formule, Dieu et patrie, c'est une formule classique. Alors, rouge de l'autre côté, avec valeur et foi. En fait, c'est un drapeau local. Je n'imagine pas que les gens du Jura aient, en 90, pensé à célébrer, à commémorer le 14 juillet. Ils devaient en connaître l'existence, mais le célébrer. Sachez par exemple que le bonnet rouge, ce qu'on appelle le bonnet rouge, bien au début, dans les années 89-90, il n'était pas automatiquement rouge. Il était aussi parfois vert, parfois bleu, parfois blanc. Alors le drapeau, non, c'est un étendard.
La cocarde tricolore passe sur le drapeau, on peut dire que le drapeau flotte. C'est-à-dire que la situation est évolutive pendant longues années.
Pendant de longues années. De toute façon, dans la cocarde bleu-blanc-rouge, est-ce qu'on va mettre au centre le bleu, le blanc ou le rouge ? C'est extrêmement varié. Et dans le drapeau lui-même, jusqu'en 1812, il y a eu des hésitations sur est-ce qu'on va mettre le rouge près de la hampe ou le bleu près de la hampe ? En 90, on le mettait près de la hampe. Ensuite, en 94, on met le bleu près de la hampe. Il n'y avait pas un drapeau unique, uniforme. On avait beau être jacobin, eh bien, on pouvait se présenter les trois couleurs nationales de façon variée. Quoi.
La forme se fixe apparemment définitivement à la fin de l'Empire. Pas de chance, c'est le moment du retour du drapeau blanc. Puisque, avec la Restauration, revient la couleur blanche du roi. Encore que le roi n'a pas toujours arboré des couleurs blanches.
Ah oui, mais alors ça, c'est... disons, c'est la couleur, on le dit toujours depuis le XVIe siècle, c'est la couleur, du début du XVIIe, la couleur que prend le fanion quand le roi est aux armées, ou quand son représentant est aux armées. Le blanc est lié à la monarchie française, en fait. Bon, il y a beaucoup d'interprétations. Hein. Les premiers Valois auraient commencé à prendre le blanc parce que les Anglais avaient le rouge, une croix rouge. Alors nous, on aurait pris le blanc, c'était le blanc de l'archange Saint-Michel, qui est blanc, que les archanges sont blancs. Mais aussi, les Huguenots, les protestants dans les guerres de religion, prennent le blanc pour indiquer la pureté de leur foi évangélique. Henri IV en hérite, le prend, son panache blanc, et ensuite les Bourbons prennent le blanc. Si bien que les catholiques monarchistes du 19e siècle arborent le blanc, le drapeau blanc du comte de Chambord, etc. C'est en partie...
Mais quand les Bourbons reviennent en 1815, on les accuse de porter l'ordre noir, parce qu'ils sont soutenus par les jésuites, et ils arborent sans le savoir une couleur, le blanc, qui était cher aux protestants.
Voilà, c'est ça qui est étonnant, quoi. L'ordre noir des jésuites, le blanc des protestants, oui.
Au deuxième jour des barricades de juillet 1830, quand tombe la Restauration, des jeunes gens hardis plantent un drapeau tricolore. Le voilà qui revient sur la tour nord de Notre-Dame. Et le nouveau roi Louis-Philippe va recevoir le drapeau tricolore des mains de qui, d'ailleurs ?
En juillet 1830. Lafayette, à nouveau. Lafayette à la Concorde. Là, à l'Hôtel de Ville, à nouveau. Lafayette, c'est un familier des lieux.
Et maintenant, il faut qu'on parle du drapeau rouge, parce que c'est pendant la monarchie de Juillet qui va suivre, les années d'après 1830, qu'il connaît ses premiers déploiements en France. Mais là aussi, l'histoire est complexe.
Nous allons vous donner lecture à présent de la chronique de M. Robert Lolland sur l'activité des académies et des sociétés savantes. Les origines du drapeau rouge en France. Le drapeau rouge, de nos jours, apparaît comme le symbole des idées révolutionnaires, des luttes de classe, du désordre. Il n'en a pas toujours été ainsi. Bien au contraire, le drapeau rouge, en effet, fut adopté à l'origine par l'Assemblée constituante comme le signe de la proclamation de la loi martiale votée le 21 octobre 1789. Selon cette loi, dans le cas où la tranquillité publique se trouverait en péril, les officiers municipaux seraient tenus de déclarer que la force militaire allait être employée. À cet effet, un drapeau rouge devait être hissé à la principale fenêtre de la maison de ville et un autre drapeau rouge promené dans toutes les rues et à tous les carrefours.
Alors bon, le drapeau rouge, c'est le signal de la répression.
C'est le signal de la répression à l'origine. Je salue au passage la docte voix de ce membre d'une société savante. Je suis moi-même membre de nombreuses sociétés savantes, mais uniquement dans Lyon. Alors, le drapeau rouge, pourquoi a-t-on pris le drapeau rouge comme signal de l'opposition au pouvoir, comme signal de l'insurrection populaire? En grande partie parce que le drapeau tricolore, qui auparavant manifestait des valeurs républicaines, des valeurs de liberté, avait été pris par le roi Louis-Philippe, le roi des Français. Il a fallu trouver un signe alternatif. On aurait pu prendre déjà le drapeau noir, mais le drapeau noir, l'ordre noir, c'était les jésuites, la soutane. Donc on a pris le rouge. Le rouge taché par le sang de nos martyrs, vous voyez, c'est...
Alors à propos de martyrs, nous voici maintenant en février 1848, la monarchie de Juillet, à son tour, tombe. Il faut faire un choix décisif. Alors voici d'abord dans le rôle de la passionnaria, Francesca Solville, et dans le rôle du modérateur, oui, dialogue inattendu, Lamartine, membre du gouvernement provisoire issu de la Révolution de 48.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main bétroie, emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'onglet au combat. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier.
Citoyens, la République est proclamée. Vive la République! Il nous faut la preuve que vous êtes bien avec nous. Vous la donnerez en décrétant le drapeau rouge. Symbole de la misère et de la rupture avec le passé.
Vous touchez à notre conscience de républicains, je proteste.
Il nous faut des actes. Voulez-vous, oui ou non, décréter le drapeau rouge?
Citoyens, le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la liberté et nos gloires, tandis que le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, baigné dans les flots du sang du peuple. Si on enlevait le drapeau tricolore, vous enlèveriez la moitié de la force extérieure de la France.
Lamartine parle ainsi, à l'en croire du moins dans ses mémoires et dans cette émission, la Tribune de l'Histoire, comme à l'accoutumée aujourd'hui, à l'Hôtel de Ville, février 48.
Ah oui, c'est à nouveau à l'Hôtel de Ville, mais on comprend les hésitations sur les symboles, parce que Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, avait pris deux symboles essentiels, le drapeau tricolore, qui montrait ses liens avec la Révolution française, le drapeau tricolore et le coq gaulois. Et sur le drapeau et sur le coq, tous les deux ont été maintenus finalement par 48. Ont été maintenus. Mais on hésitait. Et ce drapeau rouge, c'est une alternative éventuelle quand en 70, quand on ne veut plus le drapeau de l'empereur Napoléon III, qui était aussi le drapeau tricolore, eh bien souvent on met le drapeau rouge. Pas parce qu'on est révolutionnaire, mais parce qu'il faut un autre symbole pour représenter la République que ce drapeau tricolore qui a représenté la monarchie de Juillet, qui a représenté la Seconde République.
Le drapeau tricolore qui, en février 48, aux yeux de Lamartine, représente les victoires du Premier Empire, qui en 1870, puisque vous êtes déjà passé à l'époque de la chute de Napoléon III et de la Commune, va représenter la défaite de Sedan. Alors quand on abat, par exemple, en 71, la colonne Vendôme à Paris, on a mis un drapeau tricolore à son sommet avant de la faire s'effondrer.
Ah, là, je vois que vous avez bien lu mes emblèmes de la République.
Et vous voulez que je dise que c'est paru? C'est paru où, déjà? CNRS édition, continuez, voilà. Bernard Richard.
Donc, oui, mais ce drapeau rouge de 70-71, bon, il va être classé insurrectionnaire et abolir, etc., à cause de la Commune. Mais avant la Commune, à Marseille, par exemple, vous avez un maire, Alfred
votre livre.
Mais qui écrit à Gambetta en lui disant « On va mettre le drapeau rouge parce qu'on ne va pas garder le drapeau tricolore du vaincu de Sedan. Et Gambetta lui répond non, on maintiendra de toute façon le drapeau tricolore. Donc il y a une discussion sur la couleur du drapeau qui va être maintenue. La commune prenant le drapeau rouge, la Marianne rouge, le rouge vraiment comme symbole de la révolte ouvrière, eh bien la République libérale démocratique qui s'installe plus tard ne le prend pas, bien
qui
sûr.
Qui s'installe fort lentement, parce que vous décrivez très bien la longue période d'incertitude qui s'ouvre, où Thiers, par exemple, n'est pas du tout partisan qu'on installe encore des Mariannes dans les mairies, et où revient le drapeau blanc, qui vous est cher d'ailleurs par certains aspects, à bien vous lire. Hein. Le prétendant au trône, Henri V, comte de Chambord, qui a beaucoup de partisans, et d'abord dans l'appareil d'État, a des chances de recouvrer le pouvoir, mais à plusieurs reprises, notamment en 1873, il affirme son attachement au drapeau blanc. Ici, scène imaginez, les caméras et les micros étaient là, face à l'interprète des royalistes tempérés.
Je ne puis revenir en France qu'avec mon drapeau. Je sens qu'avec le drapeau tricolore, je ne suis plus moi-même.
Pensez, monseigneur, que vous tuez le principe de la légitimité si nécessaire au repos du pays. Vous tuez la France, vous tuez vous-même. Le drapeau tricolore est le symbole du régime moderne. Quand on agite le drapeau blanc, le peuple croit voir le retour des privilèges, de la féodalité et la suppression de l'égalité. Le drapeau tricolore, c'est pour le peuple la date de son affranchissement. Il y voit ses lettres de noblesse. Le maintien du drapeau tricolore est une nécessité absolue. Et si Monseigneur renonce à lui, il faut qu'il renonce à la couronne de France.
Je ne puis accepter le drapeau tricolore.
La piété les bat, bonne conseillère en politique.
Je pense que là, celui qui parlait, c'était Chénelon. Chénelon, qui était un royaliste, mais relativement modéré, du Pays Basque, hein, de cette région d'où est sorti André-Marie, par exemple, sa fille Alliot-Marie. Bon, c'est de là que sortait cette volonté de maintenir, de rétablir le roi légitime, mais en acceptant quand même un petit peu le tricolore, quoi.
La République, on peut dire qu'elle est née de l'agonie du drapeau blanc, qui s'est accélérée d'elle-même, et de la victoire sur le drapeau rouge.
Oui, on peut dire que la République, c'est dans les trois couleurs, l'imposition des trois couleurs, et non pas simplement du blanc ou du rouge. C'est une République libérale et modérée qui s'installe. C'est une République assez bourgeoise.
Mais... Vous dites, avec Furet, que vous citez que la République rentre au port, et alors qu'il y a plusieurs phares là, qui permettent de signaler le port... Il y a le drapeau, il y a Marianne et oui. Il y a le 14 juillet. Tout ça s'impose à peu près en même temps autour de 1879.
Oui, 1879, c'est en janvier 1979, Mac Mahon qui démissionne, Jules Grévy qui est élu président de la République par ce qu'on appelait l'Assemblée nationale à Versailles. Et en même temps, le rétablissement de la Marseillaise, donc en février 1979, l'établissement du 14 juillet, comme fête nationale en
1880.
En 80, le 6 juillet 80, on établit la fête nationale. Et en même temps, on distribue les drapeaux. Les drapeaux, les régiments qui ont perdu leur drapeau parce qu'on était battus par les Prussiens, on leur remet sur l'hippodrome de Longchamp, le 14 juillet 1880, on leur remet les drapeaux. Et des médailles sont faites au 14 juillet, fête nationale et jour de distribution des drapeaux.
Alors le rouge va continuer son chemin, on va le laisser seul, il est à l'enterrement de Victor Hugo, il est à partir des années 90 le 1er mai en abondance, les municipalités communistes longtemps après 1920 ont refusé de pavoiser en tricolore, mais votre livre Les emblèmes de la République, CNRS édition, raconte des choses beaucoup moins connues. Comment occuper le blanc dans le tricolore, parce que ah oui. il reste de l'espace ouais. libre non, pour toutes sortes d'interprétations oui. contradictoires.
On a une page blanche dans le drapeau français, une page blanche qu'il faut meubler. Alors on y met parfois en 48, on y met la devise républicaine. C'est à ce moment-là qu'elle apparaît qu'elle apparaîtra dans la Constitution en novembre. Mais dès février, on le met souvent sur le drapeau. Liberté, égalité, fraternité. On y met aussi parfois le bonnet phrygien. Alors pourquoi en 48 meublé? Parce que c'est le même drapeau que celui de Louis-Philippe qu'on vient de chasser. Donc il faut mettre quelque chose dans le blanc. On mettra ou bien on mettra RF par exemple. Il faut mettre quelque chose.
Les catholiques royalistes qui n'ont pas pu imposer le drapeau blanc, ils voient un espace blanc là, qui serait peut-être
oui.
utile.
Oui, oui, mais alors là c'est par exemple La Croix qui à l'époque était un journal effectivement catholique, mais catholique monarchiste. Eh bien, ils n'acceptaient le drapeau tricolore qu'à condition que dans le blanc, on mette l'insigne du Sacré-Cœur. De la même façon qu'ils n'acceptaient pas le 14 juillet comme fête nationale, ils ne voulaient que la fête de Jeanne d'Arc comme fête nationale. Donc sur le drapeau blanc, on peut mettre, alors on peut mettre aussi la croix de Lorraine.
On peut mettre ou la Francisque. Et on peut mettre la croix de Lorraine. Votre cher maître Maurice Agunon habite à Bar-sur-Aube. Nous sommes non loin de cette très belle commune, à Joncreuil.
Il existe une église un peu surprenante, une église avec une couverture très spéciale.
Nous pouvons remarquer une tache un peu plus blanche. À l'emplacement de cette tache, au printemps 44, un artisan joncreuillois avait tout simplement dessiné une croix de Lorraine sur le toit de l'église. On était en 1944, en pleine période d'occupation, la commandanture était à 5 km d'ici.
Ce fou joncreuillois, c'était Ferdinand Arnoux, un résistant de la première heure, le père de Jean, historien du village.
Et j'étais scolarisé à l'époque, j'étais jeune et je le voyais de la fenêtre de l'école. Nous, on était fiers évidemment de l'action de mon père.
Aujourd'hui, la municipalité de Joncreuil veut remettre la croix de Lorraine en tuiles.
Et les monuments de France sont tout à fait d'accord pour la refaire, cette croix.
Reste à boucler le budget, 4 500 €. La municipalité et l'association de sauvegarde du clocher ont lancé une souscription.
Nous citons beaucoup de vaillantes TV locales aujourd'hui, Canal 32, Aube et Champagne. C'est plus simple de mettre la croix de Lorraine sur le drapeau, ce qui se fait à Londres. C'est le général de Gaulle d'ailleurs qui le fait le premier.
Oh, c'est compliqué parce que quand on lit les mémoires du général de Gaulle, le général de Gaulle attribue ça à Thierry d'Argentlieu, non pas Tienlieu d'Argentré.
Oui, c'est son surnom.
Alors qu'en vérité, c'était le vice-amiral Muselier qui était lorrain. Et qui, pour le pavillon des flottes, parce que le drapeau, à l'origine, quand le drapeau est sur un bateau, c'est le pavillon. Et on l'appelle le pavillon. Alors, c'est là qu'on met la croix de Lorraine, sur le pavillon des flottes, des quelques bateaux venus de l'île de Sein ou d'ailleurs, de la France libre. Alors, de Gaulle l'adopte, et puis ensuite, la résistance intérieure l'adopte aussi en France.
Ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre a beaucoup contribué à la sacralisation du drapeau tricolore, emblème par excellence.
Des images dont tout le monde se souvient. Les joueurs de l'équipe de France sont pétrifiés. Dans le stade, pour ce France-Algérie, des supporters sifflent la Marseillaise. Une heure plus tard, ils envahissent le terrain. Ils sifflent. Je m'en vais, s'écrie Jacques Chirac. 11 mai 2001, l'histoire se répète. Finale de la Coupe de France, pour la seconde fois en moins d'un an, des supporters sifflent l'hymne national. Pour éviter une troisième fois, les députés ont adopté cet après-midi une disposition, 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour outrage au drapeau français ou à la Marseillaise.
Loi précisée par décret en 2010.
Oui, alors écoutez, le drapeau étant sacré, il appelle le sacrilège. Il appelle le sacrilège. On ne va pas développer ici les raisons qui font que l'on s'attaque à un drapeau. Beaucoup de drapeaux américains ont été brûlés de par le monde. La Marseillaise a été sifflée. Bon, ce sont tous ces emblèmes vénérés d'un État qui sont susceptibles, lorsqu'il y a malaise au sein de cet État, ils sont susceptibles d'être agressés. Et la Marseillaise, le drapeau tricolore, ou que ce soit la bannière étoilée, sont de temps en temps agressés ainsi.
Ça vous étonne si un drapeau étranger pénètre dans un bâtiment officiel ? Je ne sais pas, un drapeau algérien dans une salle des mariages d'un hôtel de ville ?
Bah, je n'avais pas l'information. S'il s'agit de marier des étrangers, qu'ils soient algériens ou équatoriens, qu'ils viennent avec leur drapeau, c'est peut-être posé. Mais je pense que le maire, lui, reste sain de son écharpe tricolore. Hein.
Et avec tout Marianne, ça, on n'a pas parlé du drapeau noir, mais enfin, à l'heure qu'il est, il est bientôt 14h. Il ne flotte plus décidément sur beaucoup de marmites. On ne va pas redonner le titre de votre livre, on n'a pas le temps.
Mais pourquoi m'agressez-vous constamment ?
Les emblèmes de la République, il est très bien votre livre. CNRS édition. Merci à vous Bernard Richard. Pas d'émission lundi, lendemain de second tour avec un long journal. À la réalisation Jacques Sigal, Camille Poux, Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la technique Claudine Lapersonne et Cédric Lalanne.